Micro-Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo, magazine que vous pouvez écouter en direct chaque semaine sur micro-rebelle.fr, chaque vendredi donc de 18h à 19h. Et ce même magazine est rediffusé par nos amis de Radio PFM 99.9 à Arras, qui nous rediffuse le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Alors Micro Rebelle Hebdo, c'est le magazine des actualités hein, sociales, écologiques, politiques, féministes, antiracistes, etc., etc., dans le bassin minier et au-delà. Alors autant la semaine dernière, nous étions assez nombreux en studio, autant cette semaine, l'équipe est relativement réduite. Je suis avec Luc à la technique.
Salut à toutes et à tous.
Et je voudrais quand même saluer hein, le fait que Aurélie n'est pas parmi nous cette semaine, c'est assez rare de sa part. Il faut quand même que je vous raconte pourquoi, parce que la semaine dernière, Aurélie était au Carnaval de Venise, dans le cadre d'un voyage organisé par les étudiantes et étudiants de sa fac à Lille. Alors elle est bien arrivée à Venise, hein, mais le jour où le carnaval s'est arrêté, du fait de l'épidémie de coronavirus, elle est donc retournée en France et depuis, elle est à l'isolement avec l'ensemble des voyageuses et voyageurs de son bus. Elle est chez elle avec son masque et pour 15 jours, on la retrouvera donc après le 10 mars. On l'encourage, on pense à elle. Bonjour Aurélie. Au sommaire de ce Micro Rebelle Hebdo, notre agenda social et culturel, des actualités, revues de presse, de la musique libre et des reportages, un reportage qu'on vous présentera tout à l'heure. Si vous en êtes d'accord, on va tout de suite démarrer par notre agenda social et culturel à deux voix, hein, Luc et moi en alternance. Et on commence par le samedi 29 février avec ce pique-nique de soutien aux expulsés du parc Matisse. Alors peut-être un peu de contexte, hein, le 21 février dernier, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation du campement installé au parc Matisse. C'est à Lille. Les forces de l'ordre sont intervenues aux alentours de 6h du matin en effectuant un tri, hein, c'est le mot qu'il convient d'employer, en effectuant un tri de la vingtaine de personnes présentes selon la procédure juridique dans laquelle elles se trouvaient, des demandeurs d'asile, des personnes en situation irrégulière. 10 personnes ont été amenées dans un centre d'hébergement à Beauvais, 11 personnes ont été embarquées au commissariat de police puis relâchées dans la journée, avec des procès-verbaux et des obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF. Alors, parmi ces personnes se trouvait un mineur qui, selon la procédure, aurait dû être mis à l'abri et réorienté vers les services du département. Et par ailleurs, une grande partie de leurs affaires personnelles a été détériorée ou jetée. Alors donc, souhaitant sensibiliser les citoyennes et citoyens sur la destruction de ce lieu de vie qu'abritait le parc Matisse, et exprimer sa solidarité face à la vulnérabilité croissante des personnes exilées, l'association Utopia 56 Lille, le collectif Les Habitantes et Habitants, le collectif Solidarité Rome de Lille Métropole, Terre d'Errance et le MRAP organisent donc ce pique-nique de soutien ce samedi 29 février à midi au parc Matisse à Lille.
Samedi 29 février également, une initiative du CSP 59. Le CSP, c'est le comité des sans-papiers du Nord qui invite à une campagne de sans-papiers en lutte. C'est une journée porte ouverte qui aura lieu à 15h au 49 rue Bernos à Lille avec projection de films. Différentes thématiques au programme, dont le respect en France du droit d'asile, la régularisation des sans-papiers, le droit de vote pour les immigrés, l'abrogation des lois xénophobes. Donc si ces thématiques vous intéressent, rendez-vous le 29 février, rue Bernos à Lille, et c'est à 15h.
Alors toujours le samedi 29 février, donc on vous a parlé des expulsés du parc Matisse, on vous a parlé des sans-papiers en lutte, Et maintenant, on enchaîne avec le meeting de Marine Le Pen. Donc ça reste un petit peu finalement dans la continuité. Alors ce meeting de Marine Le Pen qui voit se mobiliser un collectif de Lensoises, de Lensois et puis d'habitants et d'habitantes du bassin minier. Un collectif qui souhaite manifester sa réprobation et indiquer que le Lens et le bassin minier n'est pas une terre pour le Front National. Typiquement, dans le communiqué de ce collectif, la cité 4, là où a lieu le meeting de Marine Le Pen, fut pendant longtemps une cité ouvrière avec des valeurs de diversité et de solidarité. Ne laissons pas le Rassemblement National venir déverser sa haine au cœur de nos corons. Donc en pratique, le Rassemblement, c'est ce samedi 29 à 14h30 au 55 rue d'Arras, c'est sur le parking du supermarché Action. Donc ça se trouve entre le rond-point d'Elleux et le pont Césarine. Et la proposition, c'est de marcher ensemble jusqu'au cercle amical de la Cité 4, là où a lieu le meeting de Marine Le Pen, donc samedi 29, 14h30, au parking d'Action.
Lundi 2 mars, réunion d'ensemble pour le climat, c'est là le collectif de Lens-Liévin. Cette réunion est ouverte à toutes et tous et elle aura lieu à 18h30 au LAG, le lieu autogéré de Liévin qui se trouve au 23 rue Jean Jaurès.
Le mercredi 4 mars, Black Boy. Alors Black Boy, c'est un roman, c'est un premier roman écrit par un noir sur ses conditions de vie dans le sud ségrégationniste américain au début du XXe siècle. Et donc ce mercredi 4 mars, c'est un spectacle qui propose en quelque sorte une vibration sensible du roman avec un comédien, un musicien et un illustrateur de bande dessinée. Ça se passe à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine, la MAC, ce mercredi 4 mars à 15h, les tarifs de 4 à 8 euros.
Vendredi 6 mars, plus d'être, moins d'avoir dans une société conviviale. C'est une conférence avec Thierry Paco, qui est philosophe, urbaniste, auteur de Ivan Illich pour une assaise volontaire et conviviale. L'œuvre d'Ivan Illich, philosophe, né en 1926 et mort en 2002, porte une critique radicale de notre société industrielle dès les années 70, démontrant qu'à partir d'un certain seuil de complexité, l'outil machine domine l'homme et devient contre-productif. La médecine nuit à la santé, le transport et la vitesse font perdre du temps, l'école abétit, les communications deviennent si denses et si envahissantes que plus personne n'écoute ou ne se fait entendre. Face à ces dérives, Ivan Illich propose une société fondée sur la convivialité, d'outils au service de l'homme, de son autonomie et de sa liberté. La productivité se conjugue en termes d'avoir, la convivialité en termes d'être. L'œuvre d'Ivan Illich réinscrit le sens d'une transformation radicale des modes de vie demandés par les scientifiques du GIEC face au dérèglement climatique et la chute de la biodiversité. C'est donc une conférence proposée par l'Université populaire et citoyenne. Elle aura lieu le vendredi 6 mars, donc à 19h, à l'ENPJJ, qui est au 14 rue Curoir, à Roubaix. Attention, c'est sur inscription. L'adresse étant web étant un peu compliquée, on vous invite pour vous inscrire à aller retrouver cette adresse sur le blog des adhérents et adhérentes de Micro Rebelle. Et la conférence est au tarif de 2 euros.
Toujours le vendredi 6 mars, j'aurais préféré que nous fassions obscurité ensemble. C'est un spectacle qui démarre en quelque sorte le cycle Les Utopistes Debout, un cycle chaque année maintenant, au départ uniquement par la ville d'Avion, mais depuis d'autres salles de spectacle se sont greffées. Et bien ce spectacle-ci se déroule justement à la salle Louis Aragon, à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion. C'est donc ce vendredi 6 mars. J'aurais préféré que nous fassions obscurité ensemble. Ce sont une série de poèmes écrits après l'attentat du Bataclan. Le quartet piano batterie violoncelle chant prend à bras le cœur ce poème d'amour et de deuil. Sans phare et sans se poser de questions, Stéphane Titlin, malgré sa stature de rugbyman, endosse avec délicatesse le personnage de cette femme abasourdie, oscillant de la douleur à l'acceptation. Les poèmes et les morceaux se succèdent, portant tour à tour la surprise, l'incrédulité, la colère et la tristesse de cette femme. Le spectacle touche au cœur de chacun. Il chemine morceau après morceau. Les instruments prennent le relais de l'indicible. Il y a là une poésie du quotidien. Loin de la colère, une bouleversante immersion dans la douleur. C'est par l'histoire personnelle que nous abordons le fait historique bouleversant. Donc, spectacle, poésie, musique, au Centre culturel Jean Ferrat, Saint-Louis-Aragon, vendredi 6 mars à 20h30. Tarif entre 4 et 6 euros.
Samedi 7 mars, qu'est-ce qu'on fabrique en famille ? Du 4 au 8 mars, Culture Commune, scène nationale du bassin minier, propose « Qu'est-ce qu'on fabrique en famille ?» avec une belle accroche. Venez vivre en famille des moments forts et surprenants, le temps d'un week-end fait de douceur, d'émotions, de rires et d'instants partagés. Au programme, de nombreux ateliers et spectacles, et notamment le samedi 7 mars de 14h à 17h, Micro Rebelle, qui participera à cette initiative et installera à Culture Commune, à la Fabrique Théâtrale, un sonomaton. Voilà, c'est donc à Culture Commune sur la base du 11-19 à Los Angoels, tout près de la Cité des Provinces de Lens. Plus d'infos sur qu'est-ce qu'on fabrique en famille sur le site de Culture Commune.
Alors le même jour, hein, on peut aller au sonomaton de Micro Rebelle et à l'initiative de Culture Commune et ensuite enchaîner par un bal folk féministe. Ça se passe à Angres, à l'initiative du groupe de Angres du planning familial. C'est à 20h30 avec un accueil dès 19h30 à la salle des fêtes de Angres.
Dimanche 8 mars. J'étais perdu dans cet agenda très fourni. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. C'est une pièce de théâtre qui se jouera à l'espace Ronnie Cooter à Grenay. Quatre actrices racontent quatre épisodes clés de l'histoire des femmes. Les suffragettes en Angleterre et leur lutte pour le droit de vote en 1913. Les féministes en France pour le droit à l'avortement en 1971. La jeune Malala au Pakistan pour le droit à l'éducation en 2012. Les femmes en Ukraine contre les dictateurs et les prédicateurs religieux. Et une projection dans le futur. Un regard sur le siècle et l'évolution du droit des femmes, ses énormes progrès et ses moments de régression. Ne dit-on pas qu'on peut mesurer la santé d'une démocratie à la manière dont elle traite les femmes et les homosexuels ? Il y aura une seule séance qui se jouera à 14h30. Les tarifs, c'est de 2 à 3 euros. C'est gratuit pour les Grenésiens. Pour les autres, et même pour les Grenésiens, réservation au 03 21 45 69 59.
Et puis, dernière annonce, hein, un petit peu en amont. Rappel, ce mois d'avril se tiendra le festival Bobine Rebelle 2020. C'est le 8e festival Bobine Rebelle. C'est au LAG, hein, le lieu autogéré du bassin minier. Alors, qu'est-ce que c'est que Bobine Rebelle ? C'est un festival documentaire d'auteurs sociaux et politiques. Tout un programme, dans cet intitulé. La particularité de Bobine Rebelle, c'est tout à fait intéressant, c'est la présence de chaque réalisatrice et chaque réalisateur pendant la projection et surtout après la projection pour un échange avec les spectatrices et spectateurs. Donc Bobine Rebelle 2020, c'est le premier week-end du mois d'avril, le vendredi soir 3 avril et le samedi 4 avril toute la journée. Nous en reparlerons très bientôt. Mais voilà, comme a dit Luc, c'était un agenda un petit peu dense. Alors dans le cadre de cet agenda, on a évoqué plusieurs initiatives autour du 8 mars. Hein, l'initiative du planning familial à Angres, la pièce de théâtre à l'espace Ronnie Cooter de Grenay. Alors on va un peu revenir sur ce 8 mars, hein, journée internationale des droits des femmes, en écoutant Nadine, qui est une militante du planning familial, particulièrement investie sur le groupe de Hang du planning familial. Donc Nadine qui va nous présenter cette initiative du 7 mars, qu'est le planning familial, et d'une manière générale, d'une manière un peu plus large, les enjeux autour du 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. On écoute Nadine.
«
Le samedi 7 mars, en soirée, pour la lutte pour les droits des femmes, nous vous invitons à un bal folk féministe à 20h30 à la salle des fêtes de Angle. L'entrée est gratuite. L'ouverture des portes est prévue à 19h30. Il y aura une petite restauration, une expo. Et cette soirée se fait en compagnie du groupe Arrière-Pays, un groupe qui a arrangé des airs traditionnels aux tendances de notre époque. Avec eux, vous voyagerez de Bretagne en Irlande, en passant par le Québec, la Russie ou encore Israël. C'est l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas de découvrir le folk dans une ambiance conviviale. La musique, bien sûr, mais aussi les danses, puisqu'il est prévu que les musiciens nous les enseignent. Cette soirée est organisée par le groupe local du planning familial. Le planning familial, c'est un mouvement féministe d'éducation populaire qui a fêté ses 60 ans il y a quelques années, qui a été créé au moment des luttes des femmes pour obtenir des droits concernant la contraception, concernant l'IVG dans les années, fin des années 50, années 60. Il y a une association départementale du planning familial qui est à Lens, 45 rue François Gauthier, où on peut bénéficier de permanence le lundi après-midi, mercredi après-midi, vendredi après-midi. C'est gratuit, anonyme, sans rendez-vous. Et des adhérentes du planning familial ont constitué un groupe local à Angres, où elles organisent des initiatives, comme ces initiatives à l'occasion de la journée du 8 mars, et où elles tiennent des temps d'accueil chaque jeudi à partir de 17h30 au Moulin de Tousse, en dehors des congés scolaires. Ces initiatives ont lieu à l'occasion du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, et non pas la journée de la femme. Les femmes de par le monde sont nombreuses et diverses, toutes uniques, toutes différentes, toutes des individus à part entière, et elles ne peuvent pas être réduites à l'icône abstraite de la femme, idéalisée par nombre de poètes masculins d'ailleurs. Et le 8 mars, précisément, ce sont leurs voix, multiples et plurielles, qui se font entendre. Car l'égalité de droit entre les hommes et les femmes n'est toujours pas acquise, même en France, où elle est inscrite dans la loi. Pour l'inscrire dans la réalité au quotidien, il faut que les femmes comptent d'abord sur elles-mêmes. Donc à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes du 8 mars, vous êtes donc conviés à ce bal folk le samedi 7 mars, 20h30, salle des fêtes de Angle. Nous organisons aussi pour les femmes angloises une journée entre femmes à Paris le samedi 14 mars. Donc nous avons affrété un bus et nous partons entre nous. En laissant les enfants au papa ou aux amis, nous partons passer une journée à Paris. Inutile de vous dire que les places ont été réservées très très vite, parce que c'est une initiative qui a beaucoup interpellé et beaucoup intéressé les femmes angloises.
Alors, actualité et revue de presse, suite à cet agenda et à cette intervention de Nadine autour de la journée du 8 mars, la journée internationale pour le droit des femmes. On y reviendra très rapidement tout à l'heure. Alors, dans l'actualité, impossible d'y échapper cette semaine. L'actualité est dominée par le coronavirus. La semaine dernière, on en était encore aux déclarations rassurantes au niveau du ministère de la Santé. Tout ça est aujourd'hui fini. L'épidémie se développe à l'échelle de la planète et la France n'est bien évidemment pas épargnée. Je vous ai évoqué tout à l'heure le cas de notre camarade Aurélie, confinée chez elle suite à son retour d'Italie à Venise. Alors comme cette épidémie de coronavirus envahit tout l'espace médiatique, on a aujourd'hui une bonne occasion de relever quelques aspects saillants concernant différentes informations autour du coronavirus. Alors tout d'abord, le premier point concerne le système de soins, le système de santé en France. On l'a abordé à de nombreuses reprises à Micro-Rebelle. Cela fait maintenant des mois et des mois que les travailleuses et travailleurs de la santé, des hôpitaux, sont en lutte, en grève. Le manque de moyens de l'hôpital public est criant. Alors quand le gouvernement annonce que chaque département dispose d'un centre hospitalier capable d'accueillir les malades de l'épidémie, on est légitimement perplexe. En gros, on peut craindre que la prise en charge des malades du coronavirus ne se fasse au détriment d'autres prises en charge. On connaît le principe « déshabiller Paul pour habiller Pierre ». En bref, cela continue à poser la question de fond. Est-ce que la gestion de la santé en France, sous le seul signe de la rentabilité, est compatible avec une offre de soins de qualité ? Le deuxième point découle du premier. En France, la mobilisation des agents hospitaliers l'a bien montré. Notre système de santé manque cruellement de moyens. La France étant l'un des pays les plus riches au monde, on ne peut que s'interroger sur la situation dans les autres pays, notamment là où il n'existe pas de système de santé. L'épidémie du coronavirus, épidémie mondiale, commence par exemple à toucher l'Afrique avec un premier décès au Nigeria. On ne peut que craindre le pire concernant la suite. Troisième point, du côté des hommes et des femmes politiques, cette épidémie est malheureusement l'occasion de s'illustrer par des déclarations hors de propos. C'est notamment le cas à l'extrême droite, avec cette proposition de bloquer les frontières pour barrer la route au virus. C'est toujours cette idée que la France pourrait être un pays épargné, un pays propre, à l'image d'une nation pure en quelque sorte. Un pays où l'on serait bien entre nous, bien à l'abri derrière nos frontières. La fermeture des frontières n'arrête évidemment aucun virus, mais ça donne à l'extrême droite une occasion de plus de développer son sinistre projet. Enfin, je vous propose de terminer cette petite énumération concernant les alentours, en quelque sorte, du coronavirus, en vous incitant à lire un article du Monde diplomatique dans son édition du mois de mars. C'est donc tout récent. C'est un article intitulé « Contre les pandémies, l'écologie ». Un article qui se demande pourquoi les pandémies se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu. Comme toujours avec le Monde diplomatique, c'est un article assez long et très fouillé. Quelques extraits. Notre vulnérabilité croissante face aux pandémies a une cause profonde, la destruction accélérée des habitats des animaux sauvages, qui cohabitent avec des centaines de microbes qui ne leur font aucun mal. Mais poursuit l'article, avec la déforestation, l'urbanisation et l'industrialisation effrénées, nous avons offert à ces microbes des moyens d'arriver jusqu'au corps humain et de s'adapter. L'article du Monde diplomatique s'appuie par exemple sur le cas du virus Ebola ou sur les maladies véhiculées par les tiques et pointe également les conséquences de l'élevage industriel avec par exemple les virus de la grippe aviaire. C'est donc à lire dans le Monde diplomatique de ce mois de mars 2020. Alors on change maintenant de sujet, mais on reste du côté des préoccupations écologistes avec cet article dans la Voix du Nord, municipal, des candidats plus verts que verts. L'article est illustré par une Marianne revêtant l'écharpe de maire, une Marianne installée dans une plante verte. Extrait de l'article. Tous verts. Des écharpes vertes sur tous les candidats lillois au municipal. Les termes « transition écologique » dans la plupart des programmes à Arras, Bully-les-Mines, Valenciennes, Lambersart. À coup de création de mini-forêts à Boulogne-sur-Mer ou de campagne en Rosalie, le véhicule à pédale, à coup de Kerbranche. Il n'est aujourd'hui plus possible de ne pas se dire sensible à ces questions-là, note Anne-Cécile Douillet, professeure de sciences politiques à Lille. La question écologique est en effet dans le top 3 des préoccupations des Français. Au-delà, la Voix du Nord donne d'autres exemples des axes qui, entre guillemets, vont imprégner les programmes municipaux. Alors évidemment, on ne peut que se réjouir de voir les questions écologiques, environnementales, énergétiques occuper de plus en plus de place, y compris à l'occasion des élections municipales. Mais on reste quand même un peu songeur. Par exemple, il est évident que les pollutions massives ne s'arrêtent pas aux portes des villes. la récente catastrophe de Lubrizol vient de nous le rappeler avec force. En réalité, la responsabilité, ou plutôt l'irresponsabilité, des dirigeants d'entreprise, animés par la recherche du profit, n'est jamais évoquée. Il est vrai que c'est plus simple d'aborder la question de l'environnement par le biais des actions individuelles, mais on risque fort de passer à côté des causes principales des soucis écologiques. Alors on va terminer cette rubrique actualité et revue de presse en revenant sur la journée du 8 mars, juste pour évoquer une initiative dont on ne parle pas beaucoup, une initiative récente, mais qui a de plus en plus d'audience. C'est la grève internationale des femmes le 8 mars. Cette grève a été initiée en 2017 par des féministes argentines suite au féminicide d'une jeune fille de 16 ans. Extrait de l'appel qui a été lancé en 2017. « Nous, les femmes, dans le monde, nous nous organisons en une épreuve de force et en un cri commun, la grève internationale des femmes. Nous nous arrêtons, nous faisons grève. Nous mettons en pratique le monde dans lequel nous désirons vivre. » Depuis, cet appel à la grève est suivi par des millions de femmes à travers le monde. Ça nous semblait important de le rappeler à une semaine du 8 mars 2020.
On fait une petite pause musicale, Lucien. Et donc aujourd'hui, pour la programmation musicale de ce micro-rebelle hebdo, on va être un peu énervé, ça va être plutôt punk. On propose d'écouter un premier groupe qui s'appelle Agents of Change et leur album Shit's All Fucked. Et donc c'est un groupe punk hip-hop de Chicago et le titre que je vous propose c'est Air Hood et G Brown Part 2.
Right now! to the poor, break your chain and kill your master. Step on the rich, give to the poor, break your chain and kill your master. Step on the rich, give to the poor, break your chain and kill your master. Step on the rich, give to the poor, break your chain.
Web radio indépendant de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité sociale et culturelle dans le bassin minier et au-delà. Une émission que vous pouvez écouter bien sûr sur microrebelle.fr, mais qui est également diffusée chez nos amis de la Franf Radio PFM. On va maintenant écouter un reportage. Ce mercredi 26 février, nous étions à Culture Commune, à la Fabrique Théâtrale plus précisément, pour ce qu'on appelle une sortie de résidence. C'est-à-dire que ce sont des artistes qui ont été accueillis pendant quelques jours et qui présentent une partie de leurs travaux, une partie de leur création au public, et c'est suivi d'un échange. Nous avons pu interviewer quelques membres du collectif Le 7 au soir qui étaient accueillis en résidence. Le collectif Le 7 au soir monte les textes d'Yvan Corbineau en théâtre d'objets. La saison dernière, Culture Commune accueillait l'auteur Yvan Corbineau en résidence d'écriture. Cette saison, l'écriture se confronte au plateau. Le mercredi 26 février 2020, à l'occasion de leur sortie de résidence à la Fabrique Théâtrale de Culture Commune, le collectif Le 7 au soir proposait d'assister à une présentation d'extraits de leur spectacle en cours, La Foutue Bande, constellation de textes sur la Palestine. L'occasion pour les artistes de confronter leur travail en cours aux spectatrices et spectateurs, et pour nous de voir comment se crée un spectacle et d'échanger avec les artistes. Nous avons ce jour-là rencontré Yvan Corbineau, mais aussi Ousloub, palestinien et membre du collectif, ainsi que Laurent Koutouli, directeur de Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais.
Eh bien, je suis Yvan Corbineau, je suis auteur et comédien et j'anime le collectif Le 7 au soir, collectif de théâtre d'objets qui adapte les textes que j'écris donc pour le plateau.
Donc ce collectif, c'est sa vocation que d'adapter les textes? C'est un collectif que tu as créé?
C'est un collectif, j'ai réuni les personnes et puis ensuite d'autres membres du collectif ont appelé d'autres personnes, voilà. Et petit à petit, on s'est constitué comme ça. Mais c'est en effet l'objet de ce collectif, c'est de monter mes textes.
Tu as parlé d'un théâtre d'objets, est-ce que tu pourrais expliquer?
C'est du théâtre où il y a des objets. Souvent, c'est dans la même famille que la marionnette, sauf que nous, on n'a pas de marionnette, donc on ne fait pas parler les objets. Donc les objets sont plutôt là comme des soutiens pour raconter l'histoire. Donc on ne raconte pas l'histoire avec les objets. Nous, ce qu'on essaie de faire la plupart du temps, c'est de ne pas être illustratif, c'est-à-dire que l'objet n'est pas là pour illustrer ce qu'on dit, mais pour décaler, pour poétiser, pour complexifier le propos, quoi. Et donc quand je dis objet, c'est plus large que ça, c'est-à-dire là dans La Foutue Bande, c'est un objet scénographique, donc des châssis. Dans d'autres spectacles, on a pas mal d'objets qui peuvent être soit de l'accessoire un peu comme dans le théâtre, mais aussi des dispositifs pour manipuler à distance des objets, donc des moteurs, des fils, il y a souvent beaucoup de machinerie, des choses qui sont accrochées dans les cintres, des trucs qui tombent, des choses qui sont manipulées avec des fils souvent, quoi.
Les extraits présentés sont ceux d'un spectacle qui s'intitulera La Foutue Bande. Donc c'est un spectacle adapté à partir de textes que tu as écrits. Donc est-ce que tu peux nous raconter la genèse du spectacle, puis comment du texte vous en êtes arrivé à créer, ou en tout cas être en train de créer ce qui sera sur scène?
La Foutue Bande, donc, c'est né dans ma tête après mon tout premier texte il y a 11 ans à peu près. Je suis allé à une manif. Il y a 11 ans, il y avait encore une opération de bombardement sur Gaza. Je suis allé manifester, j'ai crié Israël assassin, Israël assassin. Puis d'un coup, je me suis retrouvé au milieu de personnes qui criaient mort aux juifs. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui ne me va pas, en fait. Il y a une chose que je ne comprends pas. Et du coup, ça serait intéressant pour moi d'écrire sur ce sujet-là, pour essayer de comprendre un peu mieux aussi, moi, comment je me positionne là-dedans, quoi. Donc voilà, ça a été un long processus pour moi d'écriture, d'errance dans plein de d'impasses ou pas d'ailleurs. J'en suis arrivé à un texte en 5 parties. J'étais en train d'écrire ce texte-là et j'ai eu une commande d'une amie flûtiste qui voulait faire un spectacle jeune public. Et donc j'avais une partie de mon texte qui s'appelait Le bulldozer et l'olivier, que j'ai réécrit totalement sous forme de conte pour en faire un spectacle. C'est pas vraiment un spectacle jeune public, c'est un spectacle qui s'adresse au plus grand nombre, aux enfants à partir de 10 ans, mais bon, on joue vraiment beaucoup devant les adultes aussi. Et c'est un spectacle qui reprend l'histoire de la Palestine sous forme de conte. Je pars d'un conte et je le déconstruis petit à petit pour revenir à la réalité. Voilà. Donc ça, c'est le premier texte que j'ai écrit. Et il y a deux autres textes, donc qui s'appellent... Le deuxième s'appelle Cartographie imaginaire. C'est l'histoire d'un personnage qui doit traverser un territoire d'un point A à un point B avec une carte. Sauf que dès qu'il ouvre et qu'il ferme la carte se modifie, le territoire se modifie en même temps. Et le dernier texte s'appelle La Dernière, qui est inspiré de La Dernière Bande de Samuel Beckett, qui n'a plus rien à voir, mais et l'histoire, l'utopie, on va dire, que j'ai essayé de mettre en place, la fiction que j'ai essayé de mettre en place, c'est quelqu'un qui retrouverait des bandes du passé aujourd'hui, sauf que ce qui est gravé sur ces bandes, ça vient du futur, et ce ne sont que des images sonores de liesses, de fêtes, etc. Donc ce qui dirait qu'il y aurait à un moment une résolution à cette situation coloniale. Et ensuite, il y a trois parties qui sont des constellations de fragments. Le premier, donc, c'est la bande, des chants et des portraits. Le deuxième, Être territoire, qui part plus donc de l'interview d'Ousloub, d'un entretien sur sa vie dans les camps, dans le camp de Bourj al-Barajne, au sud de Beyrouth, mêlé en dialogue avec des textes que j'ai écrits sur qu'est-ce que ça serait porter un territoire, comment on fait vivre un territoire quand on n'y habite pas. Et la dernière partie, c'est Cabaret colonisation, et c'est... pour moi, le moyen de questionner aussi, nous, qu'est-ce que c'est notre rapport à la colonisation, nos implications dans cette situation particulière de colonisation, mais aussi tout ce qu'on n'a pas réglé avec la colonisation en France et qui nous pend au nez quotidiennement.
Assez naïvement, quand j'ai vu le titre La Foutue Bande, avec au-dessus le collectif Le 7 au soir, j'ai cru que la bande, c'était le collectif. Puis au fur et à mesure, donc la bande, ça commence à se matérialiser, puis ça devient la bande de Gaza, mais c'est pas dit non plus. Et puis alors il y a ces allers-retours dans la polysémie de ce que pourrait être la bande. Donc comment dans le spectacle justement cette polysémie, ou alors tout ce qui se cache derrière le mot bande est travaillé?
À la base, moi, dans l'écriture, j'avais une partie entière qui s'appelait Variation autour du mot bande, que je n'ai pas gardé. Sauf qu'il y a plein de traces dans pas mal de textes, notamment dans la première partie qui était là ce soir, la plus représentée en tout cas. Il y a pas mal de, justement, de polysémie autour de différents sens du mot bande. Après, pour moi, On nomme pas la bande de Gaza, mais un des extraits de la première partie, la partie va vers des bombardements, en fait. Donc là, on l'a pas, mais il y a un bon gros rap, il y a un bon gros texte sur les bombardements et avec un gros rap après. Donc pour moi, cette première partie, sans la nommer, c'est plus sur Gaza et plus le texte avance, plus on s'éloigne et plus ça s'élargit en fait le point de vue. Donc les portraits, ce sont plus des textes de Palestiniens, plutôt de Cisjordanie, ça pourrait être Gaza, mais moi je suis allé en Cisjordanie, donc les gens que j'ai rencontrés, ou c'est plutôt ça s'agrandit un peu, puis l'être territoire, on est carrément donc ensuite plutôt dans les camps ou des Palestiniens qui habiteraient en Europe ou ailleurs. Pour enfin arriver chez nous. On a essayé plein de choses. Donc là, comme tu l'as vu, il y a un mur au début, mais bon, qui est un mur vraiment fait de briques et de broc, donc qui ne ressemble pas vraiment au mur, la barrière de séparation, comme ils l'appellent, mais qui est une évocation de cette chose-là. Il y a plein de bandes. Il y a la bande de Magneto Revox, qu'on utilise, qu'on aimerait utiliser, notamment dans le dernier texte, la dernière. Et puis on construit notre scénographie en bande, quoi. Donc on a cette première bande qui est devant le mur crée une bande, puis derrière il y a une bande avec des tables, voilà. Puis il y a une tringle avec des choses qui peuvent passer. Donc en fait on essaie de travailler sur cette chose-là.
Ça fait plusieurs fois que tu parles d'être territoire, bon, c'est conceptuel. Alors est-ce que tu pourrais sommairement nous expliquer ce que c'est un être territoire ou l'être territoire ?
Oui, ben, c'est très simple. C'est un concept que j'ai trouvé dans un bouquin de Elias Sambar, qui est un historien palestinien francophone. Et il parle de ça, de l'être territoire, donc d'un être qui porterait son territoire avec lui et qui le ferait vivre comme ça, voilà. Et donc la deuxième partie ou troisième partie, c'est donc avec Ousloub qui lui-même serait un autre territoire vu qu'il est né à Bourjard-le-Barajné, au sud de Beyrouth, et qu'il a construit son rapport à la Palestine hors Palestine, quoi. Mais c'est ce qu'il dit dans le texte, je sais pas si là ça y était, je me souviens plus, mais que pour eux le camp c'était pas le Liban, quoi, c'était un morceau de Palestine hors Palestine.
Donc là, c'est une sortie de résidence. Vous êtes resté, si j'ai bien compris, 10 jours ici à Culture Commune. Il n'y a qu'une partie du spectacle qui, pour l'instant, est créée. Encore, ça pourrait bouger. Donc, c'est quoi l'agenda de ce spectacle ? Comment ça va aboutir ? Et où ?
Eh ben, on va le créer mi-octobre 2020 à Strasbourg. On devrait venir ici de la saison prochaine, mais je ne sais plus très bien à quel moment de la saison. Et d'ici là, on a encore 2 résidences avant les 15 jours à Strasbourg. Et on a aussi du temps donc, entre les résidences, où il y a de la construction, où il y a du travail encore sur le texte, des questions dramaturgiques qui se posent, notamment avec Elsa, la metteur en scène. Et puis voilà, il faut que... Dans en gros 6 semaines de résidence au plateau, on est pondu, comme on dit, notre spectacle. Voilà.
Yvan Corbineau, auteur des textes que met en scène le collectif Le 7 au soir, troupe de théâtre d'objets. Ousloub est palestinien et musicien au sein de ce collectif. Nous l'avons interrogé sur son rôle dans la bande et sur son rapport à sa terre d'origine et à l'exil.
Je m'appelle Ousloub, je suis palestinien, je suis musicien aussi. Je fais du rap, je fais du prod aussi, je chante le classique rap musique.
Et alors comment tu as rejoint le collectif ?
En fait, moi j'ai un projet avec Yvon, ça s'appelle le bulldozer et le levier. Moi, j'ai commencé à travailler avec Yvon il y a 3 ans. Et moi, je connais Naïssam. Naïssam, il a commencé le projet Le Bulldozer et le Levier avant moi. Je suis venu en France. Et voilà, on a progressé le projet avec le projet de ce soir.
Le spectacle parle de la Palestine. Toi, tu es le seul Palestinien du collectif. Ça intègre aussi des passages de ta vie. Donc, est-ce que toi, tu vois ça aussi comme... ta propre histoire comme une autobiographie ?
En ce moment, il y a beaucoup de monde qui parle sur le Palestinien ou sur le Palestinien en Palestine. Mais jamais quelqu'un parle sur le Palestinien qui habite hors Palestine. Parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, ils ont quitté la Palestine en 1948. Il y a des réfugiés palestiniens en Jordanie, en Syrie, en Irak et au Liban. Et c'est pour ça que je trouve ce projet vraiment important parce qu'il faut parler sur le cas de Palestiniens dehors Palestine.
Une question plus personnelle, mais ça traite aussi des questions de territoire, de frontières. Toi, comment tu penses à tout ça?
En fait, les Palestiniens qui ont quitté Palestine en 1948, ils ne peuvent pas retourner en Palestine. Moi, je suis né au Liban, mais en fait, moi, je suis né dans une communauté palestinienne. Mais on ne sait pas vraiment Palestine. On est Palestinien, mais jamais été en Palestine, jamais connaît vraiment la Palestine. Et c'est vraiment compliqué la situation quand je suis venu ici en France, quand j'ai dit je suis palestinien. Ah, t'es palestinien de où? Je suis de Yafa, mais jamais été à Yafa. C'est vraiment un truc compliqué pour moi, mais ça reste, c'est comme je dis, c'est un choix politique. Et c'est un truc pour moi, ça reste vivant. C'est parce que je suis palestinien, mais j'ai un papier du réfugié palestinien de Liban. C'est bizarre, mais oui, c'est ça la situation.
Yvan l'a dit tout à l'heure, la dernière partie du spectacle concerne un futur lointain, rêvé ou hypothétique sur ce que pourrait être le territoire palestinien, israélien, dans très longtemps, toi, est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu as des rêves aussi par rapport à ça?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est le rêve de ma vie. Vivre en paix et vivre ensemble. C'est pas la Palestine, vraiment, c'est pas une grande terre pour faire la guerre tout le temps. Il faut trouver une solution pour. Et ça fait longtemps aussi. Ça fait 60 ans maintenant et il y a beaucoup de problèmes aussi. On souffre. C'est pour ça, moi je pense qu'il faut trouver une solution et tout le monde vivre ensemble.
Enfin, pour mieux comprendre ce qu'est la résidence d'artiste, nous avons posé la question à Laurent Coutouli, directeur de Culture Commune, qui accueillait pour 10 jours le collectif le 7 au soir.
En fait, très simplement, on accueille régulièrement à la Fabrique théâtrale de Culture Commune, à Los Angeles, sur la base 19, des équipes artistiques qui viennent travailler des projets en cours de création. Donc ils cherchent, ils répètent, ils font beaucoup de travail, je dirais, de recherche par rapport à leurs projets. Et il y a des moments où ils ont envie, et nous aussi, parce que c'est important aussi qu'il y ait une rencontre avec la population, les habitants, on a envie d'ouvrir les portes pour montrer le travail en cours. Ça permet d'une part de comprendre en fait où se situent les artistes, qui cherchent. En même temps, ça montre aussi qu'ils sont pas certains. Ils sont peut-être en train de créer une œuvre, mais elle est en devenir, elle n'existe pas. Donc c'est un moment qui est important parce que ça permet de désacraliser le rapport à l'art, le rapport à la création, et montrer que en fait, c'est des hommes et des femmes comme vous et moi qui sont à l'endroit de l'établi. Du travail en fait en cours, de la fabrication, et voir quelqu'un fabriquer, c'est beaucoup plus finalement intéressant et compréhensible que de voir juste une œuvre qui a ses perfections mais aussi ses imperfections, et quand on voit que le résultat, finalement on comprend moins en fait que finalement c'est des hommes ou des femmes comme vous et moi.
Quels sont les moyens que met à disposition Culture Commune? Est-ce que c'est l'intérêt d'avoir une salle, une scène, des locaux, des décors, des logements ou même des finances? Comment ça se passe en fait?
En fait, ce n'est pas seulement une question de moyens, que ce soit d'ailleurs des locaux, matériels, ou financier. C'est une question en fait de rencontre avec des artistes, avec qui d'ailleurs qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que la Foutu Bande, c'est le collectif le 7 au soir, c'est Yvan Corbineau notamment qui au sein du collectif, qu'on connaît depuis un certain temps, qu'on a accueilli sur différents spectacles, qu'on a accueilli aussi sur un temps d'écriture à la Maison des artistes et citoyens dans la Cité des Provinces à Lens, donc à 250 mètres de la Fabrique théâtrale, et qui a permis de rencontrer en fait et de découvrir l'univers artistique de la compagnie, de l'équipe artistique de Yvan. Et là, on est dans cet élément où c'est un projet qu'on accompagne depuis le début, depuis l'année dernière, puisqu'il était en résidence d'écriture l'année dernière, qui nous a partagé en fait ses premiers textes. Et là, c'est avec une équipe de 9 personnes, c'est la découverte en fait d'un temps de travail, en sachant que ce temps de travail est une étape, puisqu'ils ont parcouru déjà un certain nombre de lieux, ils vont en parcourir d'autres, de lieux de travail, de fabrique, avant le résultat final, la création. Donc on est vraiment dans un chemin où on accompagne, main dans la main, en fait, le travail en cours. Cette résidence donne à voir et à entendre et à percevoir, en fait, l'univers artistique d'une équipe composite, parce qu'il y a évidemment, c'est pas juste Yvan, c'est tout un ensemble, évidemment, avec des dimensions différentes, que ce soit au niveau de la scénographie, de l'écriture, de la manipulation, de l'objet, de la musique, bien sûr, et de tous ces éléments ensemble.
Et alors, comment sont choisis, sélectionnés, ceux qui seront accompagnés? Est-ce que ce sont des troupes, des collectifs qui vous sollicitent? Est-ce que c'est vous, ici, à Culture Commune, qui vous rencardez pour essayer de découvrir des nouveaux artistes? Comment ça se passe?
Ça se passe par des rencontres qui passent souvent par un accueil d'abord. C'est-à-dire qu'on les accueille en diffusion d'un spectacle qu'on a aimé, qu'on a repéré. Et après, si le contact est bon, s'il y a quelque chose qui se passe, on va dire qu'un accueil, on appelle peut-être un autre ou un partage d'une idée, d'une envie commune qui peut être investi d'ailleurs, non pas sur la Fabrique théâtrale, mais ailleurs, avec un partenaire, ou encore sur le territoire, sous chapiteau ou dans l'espace public, parce qu'on fait des spectacles, des présentations et un travail aussi in situ participatif avec des habitants un peu partout sur le territoire. Et à partir de ça, naît l'idée d'accompagner plus fortement un projet de résidence. Donc en fait, c'est un chemin qu'on construit avec les équipes artistiques qui permet d'ailleurs au public, aux habitants qui découvrent le travail, de faire ce chemin avec nous et avec les artistes.
Ce reportage a été réalisé lors de la sortie de résidence du collectif le 7 au soir de la Fabrique théâtrale de Culture Commune. Vous avez pu entendre successivement Yvan Corbineau et Ousloub, tous deux membres du collectif, ainsi que Laurent Coutouli, directeur de Culture Commune.
wanna say I think it's sad. Yeah, I really don't feel the same way that I
On était avec le punk californien Gentillé de Glass Beach sur leur album presque éponyme qui s'intitule The First Glass Beach. Ce micro-rebelle hebdo se termine. Retrouvez-nous très bientôt sur microrebelle.fr. Merci à nos amis de Radio PFM qui diffusent cette émission. On va revenir à Agent of Change et leur Shit's All Fucked pour terminer musicalement cette émission.
Divided, utilize authority to prevent our enemy, cause our lives are born and uninspired. When they call you sweetheart and it's not your name, and they play with your hours like a fucking game. But the smallest mistake, they put you on a cross. There's no love to begin with and there's no love lost.
Kidnap your boss,
kidnap your boss,
kidnap your boss,
and they fucked with your hours and recoup that loss. Whoa.
Kidnap your boss,
kidnap your boss,
kidnap your boss,
kidnap your boss. There's a lot to be given, and there's no love lost. It's so nefarious and unnecessary. They treat us like fools and they're enlightened. We comprise the majority, and things can be improved. We can only get united when they call you.